Vous avez eu une enfance difficile. Vous viviez en vase clos avec vos parents et votre frère. Vous dites, je n'avais pas de cousins ou de parents, pas d'amis. Un père violent qui régente tout, qui cogne aussi parfois. À 17 ans, vous obtenez votre émancipation. Vous êtes un temps SDF à Paris. Vous enchaînez les petits boulots. Vous rencontrez des jeunes gens qui vendent la cause du peuple, l'organe maoïste soutenu par Sartre, et vous vous joignez à eux quand vous entendez qu'ils scandent non au racisme anti-jeune. Et vous racontez, Claudine.
En 1971, on était 5000 casqués et armés à attaquer un meeting d'ordre nouveau au Palais des Sports. On n'hésitait pas à charger la police. J'ai toujours été révoltée par l'injustice. Enfant, je me suis sentie seule, fragile, opprimée. Je n'ai eu aucun adulte pour m'aider. J'ai dû construire mon système de défense tout seul. L'extrême gauche m'a donné une morale, un cadre de réflexion. C'est par là que je suis arrivée à Libération.
Voilà. Je m'ai entendu ça non plus, hein, c'est des choses que je tiens plutôt secrètes pour ne pas perdre une partie du lectorat. En tout cas, non, mais ce qui est important dans ce qui vient d'être dit, c'est que lorsque vous êtes élevé par dans une secte, en fait, avec un père qui est plus un gourou qu'un père, quand vous êtes élevé dans un lieu où la musique est interdite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de musique chez moi lorsque je suis enfant, où les livres sont interdits, je vais lire en cachette à la bibliothèque municipale de Lyon, parce que mon père ne voulait pas que des livres entrent. Quand le seul bruit, c'est la première chaîne de télévision, il n'y en a qu'une, je vous rappelle, à l'époque. Je vois qu'il y en a pas mal qui sont de mon âge. Et lorsqu'il n'y a pas de musée, lorsqu'il n'y a pas de beauté, lorsqu'il n'y a rien, c'est un monde de silence où les seuls bruits que l'on entend, ce sont soit les coups, soit le père qui parle tout seul. Enfin, je ne sais pas, pour ceux qui, on en parlera peut-être, mais qui ont lu Profession du père, donc un homme qui s'invente des milliers de métiers. Et que tout d'un coup, moi, je me sauve de là. Je me sauve parce que je sens, à 17 ans, que je suis en danger de mort, comme on a pu voir des histoires d'un homme qui a fait croire à toute sa famille qu'il avait un métier, etc. Et puis quand il est démasqué, il tue tout le monde. Et je sais qu'à ce moment-là, moi, je pense que j'étais en danger de mort. Effectivement, il faut que je m'en aille. J'aurais pu tomber sur l'église de Scientologie. J'aurais pu tomber sur, je ne sais pas, sur n'importe qui. J'aurais pu tomber sur l'extrême droite parce que mon père en venait. Mon père était raciste, antisémite. J'aurais pu, et je suis tombé sur des gens. La première chose qu'ils m'ont demandé, c'est de reprendre mes études. Ensuite, ils m'ont ouvert les portes des musées, les portes des bibliothèques. C'est-à-dire que les premiers concerts... Tout d'un coup, je découvre qu'en dehors de cette secte, il y avait une vie. Alors, j'aurais pu tomber sur n'importe qui. Il se trouve que je suis tombé sur eux. Ensuite, il y a eu la création de Libération. Et je ne suis dupe de rien. Je sais ce qu'était l'extrême droite et l'extrême gauche à l'époque. Je sais la violence qui les animait tous. Et en même temps, c'est vrai, ce mot, la morale. C'est-à-dire qu'on m'a... J'ai eu une morale qui n'était pas celle de mon père. C'est-à-dire que mon père me disait il faut faire attention aux Juifs parce qu'ils tiennent tout. Il faut faire attention aux Noirs... parce qu'ils vont te tuer, etc. Et j'ai eu une autre morale, une autre vie, d'autres gens, une autre musique dans la tête. Et cette musique-là fait que je suis devenu ce que je suis. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, je pense que grâce à ces gens-là, quoi qu'ils aient fait, quoi qu'on en pense, j'ai échappé au pire. Et pour moi, ce sont été plein de choses, et en plus, ce sont été mes maîtres. Et pas, moi, nous, sincèrement, c'est important, c'est un tout petit point. Mais quand on dit les Mao, on s'en foutait. Enfin, notre problème, c'était pas la Chine, c'est pas ça le problème. Notre problème, c'est que c'est comme si le jeune n'avait pas existé. On était habillés comme nos pères, les filles étaient habillées comme leurs mères. On n'avait pas de musique, on n'avait pas de radio à nous, on n'avait pas de journaux à nous, on n'avait pas de télévision à nous. Évidemment, on n'avait rien. Et ben, on a créé ce journal en se disant et si on faisait, on était dans un lieu dans lequel on se retrouvait. Voilà, c'est tout. C'était juste un tout petit point. Je n'étais pas un militant militaro-débile, j'étais juste quelqu'un qui brusquement à la sortie de la gare de Lyon aurait pu tomber sur n'importe qui, peut-être sur le PS ou même sur le ça s'appelait comment l'UDR à l'époque, non, c'était pas le RPR avant le RPR. J'aurais pu tomber sur n'importe qui m'aurait dit il faut que les jeunes aient une vie, aient une pensée et que les jeunes s'ouvrent à la culture. Je pense que je l'aurais suivi. Et finalement, je ne suis pas mécontent d'avoir suivi ces jeunes-là. Voilà. C'est juste une petite mise au point pour pas que vous pensiez que vous accueillez, je ne suis pas à Action Directe.
Donc, vous rentrez à l'IB, vous êtes surtout dessinateur, metteur en page, je crois.
Je suis dessinateur, puis quand les vrais arrivent, ils s'aperçoivent que je suis un escroc, donc je ne suis plus dessinateur. Parce que comme le journal se professionnalise petit à petit, ils s'aperçoivent que je fais des petits dessins. Ensuite, je monte en page, puis les vrais arrivent. Parce que petit à petit, Libération agrège plein de gens qui n'avaient pas de carte de, qui avaient une carte de presse, mais qui étaient dans d'autres organes de presse sérieux. Il y avait La Croix, il y avait Combat, il y avait Le Monde. Et finalement, je fais pas l'affaire tellement comme monteur en page non plus. Et Serge Julie, mon directeur, me dit écoute, soit tu t'en vas, soit tu rentres à la rédaction. Je dis plutôt la rédaction.
C'est là que vous vous occupez des faits divers et surtout vous couvrez de nombreux procès, dont celui donc, de Klaus Barbie.
Oui.
Qui vous vaudra ce que Ken a dit, le prix Albert Londres, un prix prestigieux quand même, hein, en 1988.
Pas quand même. Pas quand même. Oui, il est prestigieux.
Ah, c'est... Mais je voulais insister.
J'ai raté le prix Goncourt quand même, là.
Qu'est-ce que ça vous a fait de peindre?
Rien. Non, mais c'est juste une petite aparté. Mais
oui.
J'ai eu le prix Goncourt des lycéens, ce qui est une très belle
c'est
chose.
C'est mieux.
Non, il ne faut pas dire ça, parce que si on nous écoute...
Si, parce que le jury n'est pas le même.
Oui, c'est 2000 gamins. Voilà. Mais en tout cas, depuis le prix Goncourt des lycéens que j'ai obtenu, donc je n'étais plus sur aucune liste de prix. C'était comme si, oui, Chalandon, il est servi. Voilà. Et quand j'étais sur cette liste-là, j'étais très heureux parce que c'était comme si j'existais encore un tout petit peu. Et dès septembre, nous savions que Mohamed Boursard aurait le prix parce qu'ils sont que 10. Donc quand 6 vous disent moi c'est lui, donc voilà, après c'était...
Savez-vous qu'on a reçu Agape il y a 2 ans?
Il était sympathique.
Mohamed. Il était
sympathique, il était bien. Oh, ben, génial, voilà. Voilà.
On avait le cœur partagé entre vous et lui. Hein.
Non, il ne faut pas.
Mais bon, on a été très heureux parce qu'on le connaissait.
Mais vous avez le bras long aussi, apparemment, parce que c'est lui qui l'a eu. Donc.
Alors, oui, le prix Albert Londres, vous l'avez eu uniquement pour le procès Barbie ou aussi pour vos reportages en Irlande, hein,
oui,
je crois.
Voilà. Enfin, c'était le 50e anniversaire, je crois, donc c'était un peu pour tout.
En 82, vous passez au service international de l'IB, oui. Vous devenez reporter de guerre.
Oui.
C'est le début d'une série d'articles importants sur tous les points chauds de la planète, et Dieu sait s'il y en a, le Tchad, la Somalie, l'Irak, l'Afghanistan, le Liban surtout. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir reporter de guerre?
D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le reportage de guerre, c'est pas le plus dangereux. Le plus dangereux, enfin le plus terrible, c'est quand la direction demande qui veut partir et seulement on lève la main. C'est le moment le plus violent du reportage. Une fois qu'on y est, c'est-à-dire qu'on court sous les balles avec les enfants, donc on prend autant de risques, mais c'est le moment où... parce qu'aucun rédacteur en chef, télévision, radio, etc., peut obliger un reporter à partir sur un front de guerre. Tu peux pas, tu demandes qui veut. C'est sur la base du volontariat. Et je crois que le moment le plus difficile, et la première fois, ça a été pour moi la plus difficile, c'est quand qui veut aller là, et que tu dis « moi », et que les autres disent « ouais, super, c'est fort ». Et donc, si on fait ça, bon, on va au cinéma, et tout. Et tu dis « je crois que j'ai fait une connerie, mais c'est un peu tard maintenant ». Et plus... En fait, mon père avait planté en moi une violence extrême. Cette violence extrême, je la vivais sans cesse. Et cette violence extrême m'a poussé aussi vers le militantisme, etc. Mais cette violence extrême, il a fallu que je m'en débarrasse. Et le seul moyen, le meilleur moyen en tout cas, d'épuiser la violence qui était en moi, c'était d'aller au contact du pire de la violence. Et cette violence extrême qui était en moi, mais comme un homme peut être violent, une femme peut être violente, en temps de paix, il fallait que je la frotte à quelque chose de plus immense encore, à quelque chose de mortel, à quelque chose de terrible. Alors, d'abord... Je voulais être là où les choses se passent. Moi, j'aime voir les choses. Je ne peux pas me contenter de France Info, la télé, la radio. Il faut que je sois quelque part. Là, en ce moment, j'aimerais être en Afghanistan avec les femmes, voir ce qui se passe réellement, parce que ça ne me suffit pas, ce que j'entends et ce que je vois. Ça, c'est le journalisme. Mais au fond de moi, l'autre raison, qui était plutôt une raison inavouable, c'était que je voulais que la guerre m'enlève, m'épuise la violence que j'avais en moi. Et je pense que je n'aurais pas pu être père si cette violence-là n'avait pas été épuisée par la guerre des hommes. Parce que le jour où vous voyez des enfants massacrés, comme j'ai pu le voir dans les camps de Sabra et Shatila au Liban, le jour où vous marchez dans du sang humain, le jour où vous assistez à ces choses-là qui hantent mes jours et mes nuits encore maintenant, vous ne levez plus la main sur personne.
Justement, je voulais vous dire, on avait un petit peu devancé, mais ça fait rien, je le reprends. En tant que reporter, vous avez vécu vraiment l'insoutenable, hein, justement. Et sur les conseils d'un de vos collègues journalistes, oui. Vous avez décidé de transformer vos larmes en encre.
C'est lui qui me l'a demandé.
Voilà, c'est lui qui l'a demandé. Alors, du coup, l'écriture de romans va succéder à l'écriture des reportages de guerre. Mais pourquoi ? Bon, vous avez vécu l'insoutenable, d'accord, mais ça n'explique pas que vous soyez venu à écrire des romans.
Si, alors, d'abord, je veux rendre hommage à cet homme qui est mort aujourd'hui, qui s'appelait François Luizet, qui était grand reporter au Figaro. Libération au Figaro, c'est bizarre, non ? Ben non. En fait, moi, j'ai eu de bons copains, même des gens extrêmement étranges, dans ces lieux de guerre. Il y en a un qui était à Minute, vous imaginez, c'est pas vraiment la gauche. Un autre qui était au Figaro, François Luizet, qui était comme mon père, en fait, parce que je l'appelais Pépé, et c'était un homme magique. Ce que je veux dire, c'est que sous les bombes, il n'y a plus de gauche et de droite, il n'y a plus de journal en concurrence, il n'y a plus que des grands garçons et des grandes filles qui ont envie de rentrer entier à la maison. Et quand il m'a dit « il faut que tu changes tes larmes en encre », c'est parce que justement, à Sabra et Shatila, il m'a surpris. Donc, je rappelle vite fait, camp palestinien, les hommes ne sont plus là, les combattants palestiniens du Fatah, de Yasser Arafat ne sont plus là, sont des camps où ne restent plus que les vieillards, les femmes et les enfants. Quelque temps auparavant, les chefs des chrétiens maronites Kataeb, l'un de leurs chefs a été tué et ils vont se venger. Ils vont se venger, ils pensent que les Palestiniens sont les assassins de leur chef, et donc ils vont entrer dans les camps et ils vont tuer tout le monde, les femmes, les vieillards et les enfants, et beaucoup à l'arme blanche. Moi, quand je vois ça, et je vais répondre à votre question, il y a deux choses en moi. Il y a le journaliste, je sais que dans moins d'une heure, ces centaines de corps... C'est-à-dire qu'on a poussé les portes des maisons les unes après les autres. Ils ont été tués au moment du dîner, en fait. Et donc, il y avait des femmes, il y avait des vieillards, il y avait des enfants qui étaient sous les tables à manger, qui étaient encore dans les lits, qui étaient dans les couloirs, qui étaient entassés les uns sur les autres. Et nous savions que le Croissant-Rouge palestinien, nous savions que la Croix-Rouge, nous savions que tous ces gens, à un moment donné, et que les forces de sécurité libanaises allaient prendre les corps, les enlever, les tracter. Ce qu'on a vu, comme dans des films anciens, notamment Nuit et brouillard, des corps poussés comme ça au bulldozer dans des fosses, on savait que ça arriverait, ensuite recouverts de chaux. Donc le journaliste sait qu'il faut qu'il ne rate rien de ce qu'il voit. Parce que si un jour il y aurait un procès, il n'y a pas eu, hein, mais si un jour il y avait un procès international, nous sommes témoins de quelque chose qui est immense, un massacre de civils. Il faut impérativement que l'on ne se trompe pas. C'est-à-dire que cet enfant qui a été, ce bébé qui est égorgé dans son berceau, il faut impérativement que je note tout, sa position, sa place, comment il est, et sa mère était où lorsqu'il a été égorgé, etc. Ça, c'est le journalisme. Mais l'homme, il fait quoi avec ça ? Moi, je vais écrire ça, ça sera dans Libération le lendemain.
Vous pensez qu'on va l'oublier après ?
Mais oui, c'est-à-dire, oh, ils me font chier avec ça, puis on passe au sport, ou on passe à autre chose, et on tourne les pages, on est en terrasse, il fait beau. Pourquoi est-ce qu'on nous emmerde avec ça, avec les guerres, avec tout ça ? J'ai pas envie, et je sais ça, moi, mais mon travail à moi, à ce moment-là, ce jour-là, c'est d'être témoin. Donc je suis témoin, donc j'écris tout ça, donc j'envoie à Libération tout ça, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, Mais mes larmes à moi, elles sont où?
Et vous écrivez le quatrième mur.
Et j'écris, alors c'est important, j'ai des petits carnets à spirale. Encore maintenant, alors moins, puisqu'il n'y a pas de reportage, maintenant je suis au Canard Enchaîné depuis 12 ans, c'est pas exactement la même chose. Mais à l'époque, sur mes carnets à spirale, page de droite, d'ailleurs j'en parle dans l'un de mes romans, page de droite, c'est tout ce qui était nécessaire au journal. C'est ce que je vois, c'est ce que j'entends, c'est ce que c'est. Lorsqu'une femme arrive couverte de sang en disant je suis la douleur de la Palestine, page de droite. Parce que ça, je sais que ça va être dans le journal. Moi, quand je m'effondre contre un mur et que je me mets à pleurer, page de gauche. C'est-à-dire que tous mes sentiments, tout ce que je vis, c'est sur les pages de gauche. Je ne peux pas dire à un lecteur, hein, voilà, j'ai souffert comme. Mais on s'en fiche. C'est-à-dire que je déteste les journalistes qui font des reportages et qui mettent une demi-page à expliquer le risque qu'ils ont pris. Ils prennent le même risque que le marin, que le pêcheur qui part à l'océan. Ils prennent le même risque qu'un pouvoir de toit qui peut tomber du toit. Ça, c'est un truc qui m'énerve épouvantablement. C'est son métier. Donc, ils ne viennent pas se plaindre. Si, même s'il est enlevé, etc., ça fait partie du métier. Donc, moi, je ne veux pas infliger ça au lecteur. Mais moi, il faut que je vive après. C'est-à-dire, moi, je vais rentrer avec les images des enfants, je vais rentrer avec ce bébé dans le berceau, je vais rentrer avec tout ça. Qu'est-ce que je fais de ça? Toutes mes pages de gauche ont donné naissance à des romans.
Le quatrième mur, en particulier.
Et le quatrième mur, donc, et ce qui est important pour moi, c'est que je veux que ça soit un roman. Donc, je ne peux pas raconter l'histoire d'un journaliste qui est à Sabra et Shatila. Ça ne m'intéresse pas, surtout pas. En revanche, je veux retourner à Sabra et Shatila et je veux faire une chose que je n'ai jamais faite en 20 ans de guerre, c'est dire je. Enfin, oui, je peux dire je.
On sait très bien que Georges, c'est vous.
Oui, mais au moins, je n'ai jamais écrit je, tandis que là, tout d'un coup, je peux dire je. Donc, c'est un subterfuge romanesque. C'est-à-dire que pour retourner à Sabra et Shatila, je vais devenir metteur en scène de théâtre. J'ai envie, en 82, donc, lors des massacres, j'ai envie de monter. ça arrive, ça. J'ai envie de monter Antigone au Liban. Je veux monter Antigone au Liban, donc c'est évidemment impensable, en prenant dans chaque camp de jeunes acteurs drus, chiites, sunnites, etc. Ça ne se montrera pas, je vous rassure, parce que si ça se montait, ça serait un roman américain qui se termine avec un coucher de soleil et tous les miliciens qui disent « On est con, pourquoi on fait la guerre ?» Le théâtre, c'est tellement mieux. Impossible. Donc je sais quand j'écris qu'ils vont mourir, je sais quand j'écris que je vais mourir, mais il faut que j'y retourne. Oui, je suis Georges, oui, je suis metteur en scène de théâtre, mais ça me permet de revisiter et surtout de dire « je ». C'est-à-dire que quand je rentre au Liban, lorsque je rentre à Sabra et que je vois cette jeune Palestinienne, toute la famille a été tuée. Elle, non seulement elle a été tuée, mais elle a été violée. C'est-à-dire qu'elle est en sang, ils lui ont attaché les mains avec du fil de fer, etc. Je ne peux faire quoi, moi? Je peux juste dire, bah voilà, ils lui ont attaché les mains avec des fils de fer, ils l'ont violé avec un paillon dans la bouche. C'est tout ce que je peux faire en tant que journaliste de Libération. En tant qu'auteur, je peux l'appeler Iman. Je peux la faire se relever. Elle peut être institutrice. Elle peut travailler avec ses enfants sur les poésies de Mahmoud Darwish. Je peux faire ça. Après, parce que je respecte sa mort, je respecte cette jeune femme que je ne connais pas, je peux après la replacer dans l'état dans lequel je l'ai trouvée en tant que journaliste, mais je peux lui donner vie. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est qu'un roman, j'ai le droit de... Et surtout, c'est magnifique de faire se relever quelqu'un, de le faire vivre, de lui mettre un sourire, de la musique, une robe et elle danse, et c'est bouleversant. Un journaliste, il y en a qui le font, des journalistes. Ça s'appelle des bidonneurs. Mais moi, je ne peux pas. C'est-à-dire que j'ai une morte, elle est morte à vie. Mais moi, auteur, moi, romancier, je peux lui dire, Iman, s'il te plaît, lève-toi. Et c'est un bonheur d'homme de donner une vie à quelqu'un qui n'en a plus.
Je terminerai par quelque chose d'assez insoutenable. C'est que, à la fin, l'utopie se heurte à la guerre.
Oui, bien sûr, c'est-à-dire que... Alors c'est...
Est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai un problème de voix.
Non, mais c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Non, sincèrement, il faut être un peu plus près, mais c'est... Non, ce qui est bouleversant en plus dans le pourquoi de ce livre, et là, c'est des choses qui sont inavouables, que je peux avouer maintenant, parce que c'était en 1982, on est en 2022... C'est pourquoi j'ai écrit ce livre aussi. Parce que j'ai, j'ai, j'ai détruit ma famille, en fait. C'est-à-dire que j'ai le choix, à un moment, soit je retourne à la guerre, soit je m'occupe des miens. J'avais une petite fille, enfin, qui est maintenant, c'est une grande fille, elle est pédiatre, elle s'occupe de mes enfants, donc tout va très bien. Mais à l'époque, moi, j'ai le choix. Soit je rentre avec ma petite fille, c'est-à-dire que je viens, et c'est important pour que vous compreniez ce que l'on peut vivre. Je suis à Beyrouth, je vois des enfants qui se font tuer parce qu'ils traversent les rues en courant, et il y a des snipers qui les visent et qui les tuent alors qu'ils vont chercher. Alors les enfants vont chercher de l'eau. Et moi, je rentre chez moi après. Je rentre chez moi et je vois ma fille qui est toute petite, qui est devant le frigo ouvert, qui dit « Oh, il n'y a pas de coca, c'est nul. » Heureusement que la fenêtre est fermée quand elle dit ça. Et c'est pas normal. C'est-à-dire que c'est pas normal que je n'arrivais plus à revenir en paix. J'arrivais plus à m'intéresser au soleil, j'arrivais plus à m'intéresser. C'est tellement sympa de boire une bière en terrasse avec les copains, plus rien ne m'intéressait. Je voulais y retourner. Et pourquoi je voulais y retourner? Parce que chaque fois que je quittais un abri débombardé, des gens martyrisés, chaque fois, ils me disaient, je vous en supplie, si vous partez, qui va parler de nous? Qui va parler de nous?
Vous êtes parti.
Et ces gens-là, chaque fois que je rentrais, j'avais l'impression de les trahir. Et c'est terrible d'être dans un lieu de guerre. Vous êtes à 3h30 d'avion de Paris et vous rentrez dans l'aéroport et vous croisez des gens qui ont des touristes qui ont des grands sombreros qui rentrent du Mexique. C'est juste insupportable. Parce que vous savez que la guerre existe. Vous savez qu'elle est là et tout d'un coup, vous vous retrouvez dans un autre monde. Et le pire, c'est les copains qui sont de l'autre côté de la douane en disant « Coucou, c'était comment ?» On n'a pas envie de parler avec eux. J'ai pas envie de les voir. Et il a fallu que je reste. Il a fallu que je refuse de retourner à la guerre. Et j'ai écrit le quatrième mur parce que je veux que Georges y retourne. Et je veux que Georges y meure. Et quand j'écris le quatrième mur, je sais que cette pièce ne pourra pas avoir lieu. C'est la première chose qu'une journaliste libanaise...
Vous n'êtes pas retourné, donc.
Si, mais c'était la fin. C'était la fin. C'est-à-dire que moi, dans l'attentat que je décris... Enfin, non, c'est pas l'attentat. Une attaque. Je suis dans un taxi, on est attaqué par un char syrien. Vous imaginez un char qui tire contre un taxi, voilà. Et moi, je m'en sors, mais dans le livre, Georges meurt. Je voulais profiter de ce roman pour tuer le barbare qui était en moi. Et donc moi, ce que je demande, quand j'écris ce roman, je sais que cette pièce ne se montrera pas, parce que je ne suis pas fou quand même, c'est pas possible, ça ne peut pas, ce que je veux faire, ce que Georges veut faire dans le livre, ça n'existe pas, ça ne se peut pas, ça ne peut pas se passer comme ça, même avec toute la bonne volonté du monde, de ces jeunes acteurs chiites, sunnites, chrétiens, ça ne se fera pas, parce que je suis désolé, mais la guerre elle est plus forte, la guerre est la fin de nous, la paix n'a pas faim de nous, le théâtre a moins faim de nous qu'une guerre, la guerre elle dévore, elle capture et elle recrache ce qui reste de nous. Et donc j'ai écrit ce livre là après je suis retourné à Beyrouth, mais je savais que je commençais la redescente lente vers la paix, qu'il faudrait que je retourne, que je revienne. Mais il fallait que je tue Georges. Il fallait d'abord que je tue Georges et qu'il meure là-bas, que ma part de barbarie y reste.
D'accord. On va passer...
Pardon, oui, je t'en prie.
Parce que sinon, on n'aura pas le temps de parler.
Non, mais écoutez, on parle aussi, là, quand même. Pardon ?
On peut rester jusqu'à 10 heures.
Non, mais c'est pas ça, mais moi, je suis vos...
Ah, mais c'est super.
Ça va ?
On va parler effectivement quand même, enfin on va rester dans le conflit, enfin pas le nôtre, mais en tout cas,
je sais pas, tu as
oui, le conflit irlandais.
Vous entendez?
Oui,
non.
Oui.
Tu l'as
oui.
Allumé ou pas?
Il marche pas. Ceux qui m'entendent, lèvent la main.
Oh ben c'est pas mal quand même.
Pardon? Non, vous me dites. Donc, avant de parler de votre dernier livre, parce qu'on va y venir, hein, forcément, j'aimerais qu'on s'arrête sur les précédents.
Oui.
Donc, Mon traître et Retour à Killybase, qui ont pour cadre le conflit irlandais, nouveau conflit que vous allez aussi couvrir, hein, inspiré donc de votre propre histoire. C'est votre première confrontation littéraire avec la figure du traître.
Oui.
On va le retrouver dans vos deux romans suivants. Cette figure du traître dans « Légende de nos pères » et « Profession du père ». Mais là, le traître est nommé à à savoir le père.
C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est encore plus. J'ai appuyé. ce que je ne savais pas lorsque j'étais en Irlande, et quand effectivement, je suis l'un des rares auteurs, malheureusement, où j'aurais préféré n'avoir aucun livre écrit, puisque tous les livres viennent d'une blessure. Donc, quand on dit le prochain, c'est sur quoi, je dis une chance, s'il vous plaît. Ne me souhaitez pas ça. Mais ce que je n'avais pas compris quand j'étais en Irlande et qu'il y a eu cette trahison, quand mon ami, 20 ans, mon frère d'Irlande, quand j'ai appris que c'était un traître et que nous avions porté ensemble des cercueils d'hommes tués par sa faute, c'est la guerre d'Irlande, hein, tués par sa faute, et qu'ensuite il me dit, tu sais, je crois qu'il y a un traître dans nos rangs et que c'est lui, et que ça dure pendant 20 ans, et que brusquement il se dévoile et il est traître pour sa famille, traître pour son peuple, traître pour son combat, et traître périphérique pour ses amis. Je n'avais pas compris que... J'ai cru qu'il était mon socle de traître. J'ai pas compris qu'en fait c'était mon père qui était le socle de prêtre. Et lui, c'était que le deuxième, en fait. Il y a de l'air qui vient de là.
Donc, j'enchaîne, tu prends la suite. Donc, c'est effectivement sur ce personnage du père, donc on va retrouver dans Enfant de salaud, Marie.
Alors,
ne le père.
C'est moi.
Je connais ça, toi.
Je croyais qu'on ne devait pas
lire. Ils sont mignonnes, hein. ça me bouleverse. Ça me touche. Vous ne pouvez pas vous imaginer, parce que, attendez, juste, parenthèse, Alma.
Je vais mettre mon manteau, je ne vais pas écouter ce qu'elle a dit.
D'accord, c'est un vous, c'est neuf, c'est ça? C'est neuf?
Neuvième roman. Publié aux éditions Grasset.
Non, mais ce qui me touche, c'est que, quand vous êtes reçu, comme ici, là, vous avez des gens qui ont lu, qui ont travaillé en amont, et je trouve ça, je souhaite ce sentiment à beaucoup de gens, parce que c'est merveilleux, quoi.
Alors, je croyais qu'on restait un petit peu plus longtemps en Irlande.
Mais on peut, non? Vous ne voulez pas qu'on reste en Irlande?
Non, on va passer en fin de salon, sinon...
Ok. Moi, je fais ce que vous voulez.
Le personnage de traître, justement, enfin du père, on le retrouve dans
Enfant de salaud, donc le 9e.
Voilà, Marie, je prends le livre, si vous voulez. Voilà.
Alors,
il faut en parler alors.
9e roman, donc.
10e.
10e, d'accord. Oui. Publié aux éditions Grasset, on l'a déjà dit, ça.
Oui.
Je m'arrête 3 secondes sur la dédicace que vous faites de cet ouvrage à Martine Boutan, mon éditrice, qui m'a accompagnée de 2005, de roman en roman, sur la route éprouvante qui menait à mon père, le premier de mes traîtres.
Oui.
C'est ce que vous venez de dire, en fait.
Absolument.
Alors, dans Enfant de salaud, nous sommes en 1987. Après un premier chapitre où le narrateur, donc...
Moi.
Oui.
Faut pas oser, je crois.
On va parler du narrateur.
D'accord, parlons du narrateur.
Il retourne au début du roman sur les lieux du drame d'Idieux, et on va suivre, à la manière d'un journal de bord, le déroulement du procès de Klaus Barbie et l'évolution de votre... votre relation.
Mais non, de cette narrateur, oui.
De sa relation avec son père.
Avec son père.
Voilà. Alors, votre roman, on peut le lire à la fois comme un récit autobiographique, un récit historique, mais vous le précisez, donc, sur la couverture, il s'agit avant tout d'un roman. Le premier chapitre, donc, où le narrateur revient à la maison d'Isieux, 43 ans après la rafle. Est-ce qu'on le lit?
Vous voulez nous le lire ou...
Oui.
Non, plutôt...
Plutôt après, hein, on a le passage.
Plutôt après. Mais vous lisez pas tout, là?
Non, on a quelques heures devant nous. En mai 1943, dissimulé dans un hameau aux portes d'Isieux, ce refuge est devenu la maison des enfants. Un lieu de passage. Le maillon fort d'une filière de sauvetage vers d'autres familles d'accueil et la frontière suisse. C'est Pierre-Marcel Wiltzer, sous-préfet patriote de Belley, qui avait proposé cet abri à l'infirmière polonaise et à Miron, son mari. Ici, vous serez tranquille, leur avait promis le haut fonctionnaire. Et ils l'ont été pendant presque un an. Pas de radiateur, mais des poêles à bois. pas non plus d'eau courante. L'hiver, pour faire leur toilette, les éducateurs échauffaient l'eau dans un chaudron. L'été, les enfants se lavaient dans la grande fontaine, se baignaient dans le Rhône, jouaient sur la terrasse et chantaient au veillées. Ils mangeaient à leur faim. Des cartes de ravitaillement avaient été fournies par la sous-préfecture et les adolescents entretenaient un potager. À la colonie d'enfants réfugiés de l'Hérault, son nom officiel de papier tamponné, pas d'allemand, pas d'étoile jaune. Seule l'angoisse de nuit des petits arrachés à leurs parents. Sur les hauteurs, dominant le Bugey et le Dauphiné, rien ne pouvait leur arriver. Ils ne se cachaient même pas. L'herbe était haute, les arbres touffus, leur voix cristalline, la guerre était loin.
Pourquoi vous avez commencé votre roman par l'évocation d'Isieux ?
Parce que je voulais dire tout de suite où nous allions. C'est-à-dire, il y a mon père, il y a son histoire, il y a ce que j'ai découvert sur son histoire pendant la guerre, ça c'est une chose, mais il y a l'autre histoire, il y a la grande histoire. Je voulais mettre les enfants d'Isieux sur le chemin de mon père. Je tenais, c'est-à-dire que c'est pas juste un livre sur un fils quelquefois. C'est oui, j'ai cherché la vérité sur mon père, mais il a assisté au procès-verbal avec moi. C'est-à-dire que lui était dans le public, il m'a demandé s'il pouvait assister ou pas. J'ai dit oui, et je pensais que le procès-verbal l'obligerait à dire la vérité sur ce qu'il avait fait. Parce que moi, je suis entre deux violences qui m'ont été faites. Mon père m'a donc raconté beaucoup de choses pour ceux qui n'ont pas lu d'autres livres. En tout cas, il avait un métier par jour, chaque fois qu'il rentrait dans ma chambre. Alors, il n'était pas charcutier ou ébéniste. Non, il est chef des services secrets français. Il était le dernier à avoir quitté la cuvette de Dien Bien Phu, tout seul, à pied. Il a traversé l'île Viet Minh jusqu'à Paris. Cher papa, il a créé les compagnons de la chanson. Mais comme il était l'amant d'Édith Piaf, les autres en ont pris ombrage. Il était professeur de judo, mais professeur de judo, ça veut dire que des judokas qui venaient le voir du Japon, juste pour voir, il était footballeur bien entendu, il a été chanteur, il a été pasteur, et il était presbytérien, donc il avait une grande toge, et moi je le crois, moi je suis son fils, moi j'ai 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, si on ne croit pas son père, on croit qui, comme adulte, comment on fait ? Et en tout cas, il y avait une constante, oui, parce que quand même, pour ceux qui ont lu « Profession du père », après l'attentat du petit Clamart, il dit qu'il est à l'OS, en fait. Hein. J'ai oublié. Il y avait Charles joué au Salon Zeller, Chalandon. On en a moins entendu parler, mais parce qu'il était plus malin, disait-il, que les autres. Et donc, l'attentat du petit Clamart a lieu, ça rate, comme tout le monde se souvient, peut-être. Et mon père me dit, écoute, on a remis un nouveau plan sur pied, il nous faut un enfant. Et c'est toi qu'on a choisi, nous, l'OS, donc il fait prêter serment à l'OS avec les slips kangourous. Vous vous souvenez, les garçons, les slips kangourous qu'on avait, les petits slips blancs comme ça, vers 4h du matin, et je prête serment à l'OS, et pendant 6 semaines, il m'entraîne pour tuer De Gaulle. Et c'est une épouvante pour un enfant. Et donc ce père, c'est ça, mais il y avait une chose qui était constante dans tout ce qu'il inventait, mais moi je ne savais pas que c'était une invention. Petit à petit, j'ai vu que c'est bizarre qu'il ne me reparle plus de tuer De Gaulle alors que je m'étais entraîné, c'est bizarre qu'il ait perdu sa toge de presbytérien, c'est bizarre. Mais une chose était constante, en tout cas, nous sommes de Lyon, mon père est de Lyon. Et la résistance de mon père, ça c'était immense. Il était à bien l'écouter, non seulement il était avec Klaus Barbu, mais ça devait être le chef de Jean Moulin, pardon. Mais je pense qu'il va être le chef de Jean Moulin. Si je rassemble mes idées, et moi, c'est mon père, ce héros. Mon père, qui est un héros, un grand résistant français, c'est important. Moi, je suis né en 52, en classe. On se demandait encore qu'est-ce que nos parents avaient fait pendant la guerre. C'est une chose que maintenant, plus personne ne se demande. Mais au fait, ton père, il a fait quoi ? Il était dans un maquis. C'était encore quelque chose qui avait une empreinte forte sur nous tous. Et le problème, c'est que mon père m'a raconté tellement de choses, donc il avait... Je crois qu'il avait libéré Lyon à lui tout seul. Il a attaqué un cinéma de soldats allemands à la Grenade. Enfin, c'est immense. Et un jour, mon grand-père, son père, ne voulait plus le voir. Donc, ils étaient fâchés. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais un jour, mon grand-père me dit, il en a marre quand je raconte, moi, les exploits de mon père, de son fils. Il me dit, écoute, j'ai deux choses à te dire. D'abord, ton père, il avait choisi le mauvais camp pendant la guerre. Ça, c'est une violence absolue pour un enfant. Tu vas avoir 10 ans à l'époque. La deuxième chose que mon grand-père me dit, c'est, tu sais, je l'ai même vu habillé en allemand, place Bellecour en 1943.
Et la troisième chose, parce que ma grand-mère commence à dire « Arrête d'embêter le petit avec ça. » Et mon grand-père vient, je pense qu'il a l'âge maintenant, il faut qu'il le sache, c'est un enfant de salaud. Donc le mot « enfant de salaud », c'est l'enfant que le mot que prononce mon grand-père, radical socialiste lyonnais, parce qu'il a vu son fils habillé en allemand, et le salaud, c'est ça. Et moi, je vais mettre la main, enfin, après sa mort, malheureusement, en tout cas, je vais mettre la main sur son dossier judiciaire, pour savoir ce qu'il a fait pendant la guerre. J'aurais de quoi faire un roman, je pense qu'on en reparlera, mais il a porté 5 uniformes en 4 ans, ça ne s'est pas vu. Il y a des jeunes Français qui sont passés à l'ennemi, qui sont revenus peut-être pour faire des petits allers-retours, mais porter 5 uniformes différents en 4 ans de guerre, personne n'a fait ça. Moi, j'ai parlé avec des officiers, avec des historiens qui m'ont dit « Écoute, et là, c'est avéré. C'est la justice, c'est les commissions rogatoires, c'est les interrogatoires, c'est la gendarmerie, c'est pas lui qui me raconte. 5 uniformes en 4 ans. » Mais faire un livre là-dessus, juste sur en gros, le père de Charlemagne qui a porté 5 uniformes en 4 ans, on s'en fout, et c'est normal. Et moi-même, je commence à me débarrasser de cette idée d'urgence et d'importance de cette guerre-là. En revanche, quand il assistait au procès Barbie avec moi, il m'avait demandé d'assister. Et moi, je me suis dit, soit je suis l'enfant de héros dont il me parle, soit je suis l'enfant de salaud dont parle mon grand-père. Mais dans les deux cas, ce procès, j'espérais, va l'obliger à avouer des choses. Soit il était le bras droit ou le bras gauche ou la tête de Jean Moulin, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui va se passer dans ce procès, qui a été immense. Moi, j'ai été, comme vous le disiez, reporter de guerre. J'ai été dans des choses les plus importantes, abominables. Mais c'est ce procès pour moi qui restera mon expérience d'homme et de journaliste la plus importante au monde. Parce que les derniers venaient nous parler. Les derniers. Ils sont tous morts après. D'abord, ils étaient âgés, déjà. Et les derniers venaient nous parler des camps, venaient nous parler de la déportation, venaient nous parler de la torture. Pendant 2 mois et demi de procès, tous nous avions l'impression de vivre quelque chose qui était absolument unique. C'était la justice, mais c'était aussi l'histoire, c'était aussi notre culture commune, c'était aussi notre mémoire, et c'était un procès, même, il y a eu des larmes, mais c'était un procès murmuré, c'était un procès, pour moi, qui était absolument immense, et c'est pour ça que je voulais que mon père vienne, j'ai accepté, pardon, qu'il vienne. Il ne s'est rien passé comme je pensais, c'est-à-dire que j'ai eu un doute pendant ce procès, parce qu'il était à l'inverse de toute la salle. Et c'est ça qui m'a mis un doute pendant tout le temps, c'est-à-dire que je ne savais pas qui il était, est-ce que j'étais enfant de salle ou enfant de héros, mais il était à l'inverse quand Barbie disait quelque chose, faisait une saillie, il souriait. Quand Maître Vergès, l'avocat de Barbie, jouait un bon tour à l'accusation, il souriait bruyamment. Et je sentais qu'il était plus proche du salaud que du héros, quand même. Parce que comment l'ami de Jean Moulin aurait pu lever les yeux au ciel quand une déportée vient nous raconter ce qu'elle a vécu. Et moi, je comptais là-dessus.
Non, parce que vous parlez justement de ceux qui viennent témoigner.
Oui.
On aimerait s'arrêter un petit peu là-dessus, si
oui.
Vous permettez. On reprendra l'histoire de votre père après.
Mais c'est pas l'histoire de mon père.
Oui, non.
C'est Klaus Barbie. C'est important.
Donc justement, le procès de Klaus Barbie est au cœur de ce roman, et on aimerait s'attarder sur 2 passages de votre livre. Maître Karlsfeld fait la plaidoirie, justement.
Ça, j'aimerais lire. Je veux bien.
Et quand il évoque les enfants d'Izieux,
oui.
Comme s'il les faisait rentrer
oui.
Dans la salle d'audience.
Oui. Bah, je vais même faire un petit peu plus long.
Comme vous voulez. Je le sens 83.
Oui, c'est ça. Serge Karlsfeld n'a pas pédé. Il n'a pas jeté ses manches vers les moulures du plafond. On n'avait usé d'aucun effet de voix. Il avait parlé avec tristesse. C'était plus un avocat. Lui, le gamin qui avait échappé à une rafle masquée par le mince rempart d'une armoire à double faux. Lui, l'historien, le militant, le chasseur de nazis hanté par les enfants juifs d'Izieux, n'avait fait que prononcer leur nom. 44 sanctifiés, l'un après l'autre, récités dans un silence de mort, mais de mort vraiment. Le calme noir du tombeau. Et aussi, plus douloureux encore, il avait lu quelques-unes des lettres qu'ils avaient écrites à leurs parents avant le 6 juillet 1944. Levé droit face aux boxes vides de l'assassin, il avait fait entrer ses enfants dans la grande salle en file, les uns avec les autres, les petits donnant la main aux plus grands. Il les avait fait comparaître devant nous, devant toi. Dans leurs shorts d'été, leurs chaussettes retombaient sur leurs chaussures trop grandes, leurs jeux de clowns capturés par les rares photos, il les avait assemblée en procession déchirante aux marches du palais, l'avait invitée aux portes de la cour d'assises, l'avait conduite au milieu de nous, lui avait demandé de prendre place sur les bancs des victimes. Serge Klaasfeld a obligé chacun de nous à baisser les yeux. Il a tassé Jacques Vergès derrière son pupitre. Il a transformé ton visage orgueilleux en figure inquiète et pitoyable. Alors c'est plus long parce qu'il y a... Je rends hommage aux enfants avec leur nom. Mais ce qui était important pour moi, c'est que c'est le seul moment de tout ce procès où mon père n'a pas eu ni morgue, ni ricanement, où tout le monde était effondré et lui aussi était absolument effondré. Et c'est ça qui était important. C'est parce qu'il avait assisté à ce procès avec moi que lorsque j'ai eu les documents sur sa vie, sa vraie vie pendant la guerre, sa vraie guerre, je me suis dit, qu'est-ce que ça aurait donné si je les avais eus en 87. Et c'est ça, le roman. Pourquoi c'est un roman? Je me suis dit, qu'est-ce qui serait passé en 87, à l'entrée du procès Barbie, si son dossier pénal, je l'avais eu avec moi? J'aurais pu le confronter, j'aurais pu l'affronter, j'aurais pu dire, papa, je sais absolument tout. Et le roman, c'est ça. Je n'ai pas touché au procès Barbie parce qu'il est sacré. Chaque parole, chaque geste de chaque victime, elle est rapportée intégralement. Je n'ai pas touché, évidemment... à son dossier, parce que son dossier, il est sacré aussi pour moi. Je ne vais pas lui rajouter un uniforme ou lui en enlever un, ça n'a aucun intérêt. En revanche, je vais jouer sur la temporalité. Au lieu d'avoir ce dossier en 2014 comme la vérité, alors qu'il était mort, en 2020, alors qu'il était mort depuis 2014, qu'est-ce que ça aurait été si je l'avais eu en main le jour où on fait entrer les enfants des yeux, où leur mémoire rentre dans ce procès? Et c'est ça. Le seul côté romanesque, qui est énorme déjà, c'est le temps. Quand le procès s'ouvre, je ne sais rien de mon père. Dans le roman, quand le procès s'ouvre, je sais tout de lui.
Donc il va y avoir effectivement une collision entre ces deux personnages, Klaus Barbie et votre père. Est-ce que je peux quand même aussi vous demander de lire ce passage?
Oui, bien sûr. Je venais de faire entrer le procès de mon père dans la salle d'audience qui jugeait Klaus Barbie. La petite histoire et la grande rassemblées. Dans le box vide de l'accusé, il y avait de la place pour les aventures de ce jeune Français, pour ce père en fond de salle, entré là par la ruse, qui avait été jugé sans admettre son crime, alors que des milliers d'autres avaient comparu les yeux baissés devant les juges d'une France libre. Mon père leur avait tenu tête en racontant des histoires pour enfants. Je me suis dit que déjà il s'entraînait pour m'endormir un jour. Moi, sa famille, ses amis, tous ceux qu'il croisait après la guerre, nous étourdirent comme un joueur de flûte. Il n'avait pas payé, et je lui en voulais. Payer, ce n'était pas connaître la prison, mais devoir se regarder en face et me dire la vérité. Il avait comparu devant ses juges, pas devant son fils. Face à eux, il a hurlé à l'injustice. Face à moi, il a maquillé la réalité, comme il n'avait rien compris. Jamais, rien regretté, jamais. J'avais emporté cette lettre pour provoquer une collision entre le passé et le présent, confronter deux hommes qui nient, l'un qui se dit Klaus Altmann, l'autre qui s'est prétendu patriote, pour narguer deux orgueils. Mais ce jour n'était pas encore venu.
Voilà pourquoi vous écrivez, pour moi, vos sorts étaient liés, le sort de Barbie, oui. Et le sort de votre père.
Oui, ils étaient liés, c'est-à-dire que c'est bouleversant quand j'y ai repensé après. Mon père, parmi ses cinq uniformes à Hull, a porté l'uniforme allemand du NSKK, qui était un groupe de transport logistique allemand. Donc il avait le casque gris, il avait... il avait le brassard à croix gammée dans Lyon, c'est-à-dire qu'à un moment donné de leur vie, Klaus Barbie, chef de la Gestapo de Lyon, et mon père, petit français, petit lyonnais de 19 ans, fourvoyé et traître, étaient dans la même ville, au même moment, au même instant. Et pour moi, de les retrouver dans la même salle, à Lyon, l'un qui dit qu'il s'appelle Klaus Altmann, qui n'est pas Klaus Barbie, que la justice française se trompe, et l'autre qui est derrière et qui nie aussi ce qu'il a fait, pour moi c'est un bouleversement. Deux éléments de la machine de guerre nazie, de la machine de persécution nazie, étaient dans la même salle. Évidemment, le chef et le moindre, mais le moindre était là aussi, qui prenait des airs et qui chaque fois... Et c'est terrible, parce que maintenant je comprends. Et chaque fois que son chef marquait un point, le petit soldat souriait. Et ça, s'en rendre compte après, c'est immense. C'est immense. Je trouvais juste que mon père était d'une débilité profonde parce qu'il souriait à rebours, à retard. Mais maintenant, je comprends. C'est-à-dire, c'est un homme qui... Et là, tout de suite, quand Le président du tribunal, vous savez, quand on passe un procès, ça ne nous arrivera jamais, nom, prénom, profession. Et Klaus Barbie dit Klaus Altmann. Donc on sait, dès la première minute du procès, dès la première réponse de Klaus Barbie, on sait qu'il va se dire Altmann, qu'il n'est pas Barbie, que la France s'est trompée d'accusé. Et tout le monde est saisi, et j'entends et je me retourne, et c'est mon père qui était comme ça, genre, pas mal. Et là, pendant 2 mois et demi, je vais devoir vivre 2 vies totalement différentes, totalement écartelées. Journaliste de Libération qui doit rendre compte de ce que je vois, de ce que j'entends, de la violence, des débats, de tout ce qui nous est raconté sur les tortures. Et de l'autre côté, je suis le fils qui va devoir encaisser les mimiques d'un père dont il ne sait rien. Et pour moi, c'était quelque chose d'une violence extrême.
À tel point qu'à un moment, Klaus Barbie va quitter le prétoire, parce qu'il est revenu, et à un moment, vous voulez faire entrer votre père dans le box des accusés à la place de Barbie.
Oui. Pas pour le juger, c'est important. J'ai lu ici ou là, parce qu'il faut se méfier des journalistes, comme vous le savez, mais Sorge Chalamon fait le procès de son père, etc. Pas du tout. Je ne suis pas un juge d'instruction, je ne suis pas un procureur, je ne suis pas un gendarme, je ne suis pas un policier. Je ne fais pas le procès de mon père. Je veux le comprendre. Je veux comprendre ce qu'il a fait, par où il est passé. Et donc, j'aimerais qu'il rentre dans le box, mais que la salle soit vide. Qu'il y ait juste lui dans le box et puis moi dans la salle, mais que personne n'assiste à ça. Juste, c'est plus l'idée du confessionnal. Sans débarrasser... De toute considération religieuse, mais il y a ton fils qui est là, ton fils qui souffre depuis toujours de ne pas savoir qui tu es. Je t'en supplie, vas-y, raconte-moi, explique-moi. Est-ce que je peux, si je peux faire une petite... tu peux ? Une petite parenthèse. C'est qu'il est... Donc, quand le procès Klaus Barbie se termine, je retourne moi à Paris, et puis lui, il reste à Lyon, et je ne sais toujours pas. Et quelques temps avant sa mort, c'est dans le livre, quelques temps avant sa mort, il me dit, il faut que je te parle, parce qu'en fait, je t'ai menti. Et moi, c'est un bouleversement, parce que mon père, quoi qu'il me dise, il va me dire la vérité. Et on se retrouve dans un bar à Lyon, un café lyonnais. Il y a des Lyonnais ou pas ? Non, voilà. Oh ben alors, un petit peu quand même, il faut bien qu'il y en ait qui soient d'ailleurs. On se retrouve dans un café lyonnais où tout un mur est un miroir. Un grand, grand miroir. C'est ces vieux miroirs un peu teintés, un peu abîmés comme ça. Et souvent, on se voyait là avec mon père et quand il me racontait les choses, il se regardait. Il regardait ses gestes, il était en représentation. Et pour la première fois de ma vie, je vois mon père qui pleure, qui ne se regarde pas dans le miroir et donc qui me parle frais. Et là, il me dit, il faut que je te parle parce que je vais mourir, effectivement. Il est mort en hôpital psychiatrique, au fait. Je vais mourir, je sens que je vais mourir, il faut que je dise la vérité. Je peux pas, oui, j'ai résisté, mais pas au sens où vous, nous, la France, où vous l'entendez. J'ai résisté aux bolcheviques, j'ai résisté au communisme, et je me suis engagé dans la Waffen-SS. J'étais dans la division Charlemagne. Et je suis allé me battre en Russie avec les copains. Et on s'est replié jusqu'à Berlin, et je suis l'un des derniers défenseurs du bunker de Hitler. J'ai quand même en tête qu'il a été l'un des derniers à quitter Dien Bien Phu, mais il pleure, et puis il me dit que ce sont ses derniers mots avant de mourir. Donc pour moi, c'est extrêmement important, et je le crois. Et c'est pour ça, ce qui est bouleversant, c'est que quand je mets la main sur le dossier de mon père qui dormait aux archives départementales du Nord de la France, je vois qu'il, oui, il a été accusé de collaboration, je vois qu'il a fait de la prison, mais en mai 45, il m'a tout raconté, Berlin en flammes, et ses copains qui mouraient dans ses bras en disant « Jean, dis à tes enfants, si tu en as, dis à la France entière qu'on s'est battu contre le bolchevisme ici pour protéger la France, dis-lui que nous sommes des patriotes, on n'a jamais touché un seul Français. » Il me raconte tout ça dans un bar lyonnais où il pleure, où les gens, il hausse le « moi je suis tétanisé et je le crois ». Et je vois qu'en mai 45, il est en prison à Losley-Lille. Encore, avant de mourir, il ment encore une fois à son fils. Et je trouve ça bouleversant, c'est-à-dire que moi, j'étais persuadé que là, cette fois-ci, ça y est. Et vous savez quoi ? Alors, il faut comprendre au deuxième degré, troisième degré, quatrième degré, je ne sais pas quoi. Mon père a été Waffen-SS, ça me va. Le problème, c'est pas qu'il était Waffen-SS, c'est qu'il m'ait dit la vérité. Enfin, je pouvais, moi, me construire par rapport à ça. Mon père, ça a été un salaud sous l'uniforme allemand qui est allé combattre en Russie, mais au moins, je peux me construire par rapport à ça. C'était faux. C'est-à-dire que même ça, brusquement, je me rends compte que ça n'a pas existé. Et c'est bouleversant de penser que jusqu'à son lit de mort, il ment. Et j'ai cherché, alors je ne saurais pas, je sais ce qu'il a fait, mais on ne peut pas savoir pourquoi est-ce qu'il l'a fait. Mais il y a une phrase quand même, une phrase qui est toute bête, toute idiote, qui est complètement... qu'il dit à un gendarme, à un moment donné, un gendarme s'aperçoit qu'il a menti dans une déposition. Il lui dit « Pourquoi avez-vous menti ?» Et là, il a cette phrase qui est... C'est une phrase d'enfant, en fait. Il dit « Parce que je voulais me faire valoir davantage. » Et en fait, ce qui a brisé la vie de ma mère, qui était une femme, qui est une femme, mais il est mort, donc elle est vivante, mais qui était une femme martyre, la vie de ses enfants, qui étaient des enfants martyrs, ce qui a bouleversé notre vie entière, c'était me faire valoir un peu plus. Et quand je me suis rendu compte de tout ça, c'était d'une violence. Parce que pourquoi il ne m'a pas raconté qu'il avait porté 5 uniformes en 4 ans? C'est immense, c'est incroyable. Pourquoi il parle des Waffen-SS? Pourquoi il me dit... C'est-à-dire que nous sommes en 2012 et dire qu'on a été dans la Waffen-SS, c'est bien. On s'en flotte. C'est une chose que je ne comprendrai pas. Mais en tout cas, avant de mourir, le dernier geste qu'il a à son fils en lui disant « Je vais enfin te dire la vérité », c'est encore un mensonge. Et ça, on ne s'en remet pas très facilement.
Et justement, est-ce que c'est ce qui motive, au-delà de la phrase de votre grand-père, le titre de votre roman?
Oui. Alors, personne dans cette salle, personne au monde, peut dire « Moi, je pense que pendant la guerre, j'aurais fait ça, ça ou ça ». Personne. Personne. Et je veux pas être trop directif, mais j'interdis à quiconque, je suis dans un repas de copains, « Moi, je pense que j'aurais fait... » Non, tu fermes ta gueule, tais-toi. Personne ne sait. Il faut être dans la guerre, face à la guerre, pour savoir si dans notre ventre, il y avait un salaud, un héros, un bourreau, un résistant, un patriote, un traître, on ne sait pas. Parce que justement, parce que comme la guerre a faim de nous, elle nous entraîne dans des lieux de nous que nous ne savions pas, que nous ignorions absolument. Donc pour moi, le salaud, c'est certainement pas le jeune Français qui était habillé en allemand. Qui suis-je pour le juger? Qui suis-je? D'autant que 7 semaines après avoir l'uniforme allemand du NSKK dans Lyon, où mon grand-père donc l'a vu, 7 semaines après, il est dans un maquis du Nord, dans un commando FTP. Communiste. Alors, il n'est pas en train de se battre contre les Russes à Moscou. Il est en train de se battre avec des patriotes communistes dans le nord de la France en chassant les Allemands en déroute. C'est-à-dire qu'il faut le lire pour le croire. Et ça, moi, je ne suis pas mon grand-père, le vieux radical socialiste amoureux d'Édouard Herriot qui... Mais c'est bouleversant pour lui. C'est le petit Lyonnais, alors, donc c'est le Lyonnais qui mange avec son... chapeau mousse sur la tête avec son petit pantalon qui monte jusque là, bretelles et ceinture, et qui n'enlève pas sa cravate. Il travaillait aux assurances. Le Phénix, cet homme-là, un bon Français, tout tranquille, qui sera de table à 17h après 4 pots de Beaujolais avec ses copains, il voit son fils habillé en allemand. Pour lui, le salaud, c'est ça. Pour moi, le salaud, c'est celui qui m'a menti. C'est pas le traître à la patrie, c'est pas le... Non, moi, je peux pas dire... je pense que, ouais, j'aurais plutôt été du côté... Personne ne sait. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il a porté 5 uniformes. La seule chose qu'il n'est pas portée, c'est le costume du père. C'est la seule chose. Donc, il nous a laissé, mon frère et moi, c'est ce que j'ai écrit, sans lumière, sans héritage, sans rien. Et c'est ça, le salaud, c'est l'homme qui a laissé sa famille... dans le silence et dans le mensonge, jusqu'à sa mort, le salaud, il est là. Le reste, après, ce qu'il ait pu faire pendant la guerre, parce que quand je réfléchis, quand même, je vais avoir 70 ans au mois de mai, j'ai toujours écrit des livres sur mon père en étant le fils de mon père. C'est la première fois que j'ai écrit un livre sur mon père, il a 18 ans. Donc je le considère comme un sale gosse, en fait. C'est la première fois. C'est-à-dire que c'est la première fois que c'est un livre sur mon père écrit finalement par moi qui suis un père. Et je suis passé du fils de mon père au père de mes filles. Et ça, c'est quelque chose qui est bouleversant.
Et donc là, par rapport à l'écriture de vos prochains romans, est-ce que vous en avez terminé avec la figure de votre père?
Oui. Plus jamais j'en avais ouvert avec père, le tome 4. On sait ce qu'il a fait de 2 ans et demi à 4 ans, c'était moche. Non, et c'est très troublant, parce que je... Si vous voulez, j'ai écrit Le Petit Bonzi, qui était mon premier roman. J'étais très bègue lorsque j'étais enfant. Et Le Petit Bonzi, c'est la douleur d'être bègue, le seul handicap qui fait rire tout le monde. C'est bouleversant. C'est sur la création des mots. Moi, j'étais enfant et je ne pouvais pas parler. J'avais les mots non seulement... Parce que quand vous arrivez à l'école et que vous demandez nom, prénom, profession du père, à l'époque, c'était profession du père, comme si la mère n'avait pas de profession. Profession du père. Et que j'ai mes copains, quand on était à Annecy ou quand on était à Lyon, ben, les copains qui écrivent Charpentier et moi, le prof qui dit « Alors, Chalandon, qui est-ce ?» Agent secret, votre papa ? Personne n'imagine qu'il y a un père derrière l'enfant et qui est bègue. Agent secret, votre papa ? Oui. C'est une violence absolue qui m'est faite et que je n'arrive pas à... Donc, c'est fini. C'est-à-dire que maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais je sais, j'ai compris, j'ai appris, et ça me va. Je ne vais pas revenir avec le père, mais ce qui est bouleversant pour moi, c'est que à part Le Petit Bonzi, donc Le Petit Bonzi, c'était sur un enfant bègue, c'était moi. Après, j'ai écrit un roman qui s'appelle Une promesse, qui est un pur roman. C'est dans un village en Mayenne où 6 amis ils sont enfants, jurent que lorsque la mort viendra les prendre l'un d'eux, ils en empêcheront. C'est un roman vrai. Tous les autres, depuis ce jour-là, depuis ce livre-là, qui était mort le livre, hein, mais il a eu le prix Médicis, donc tout d'un coup, formidable. Ça, c'est autrement, l'éditeur me serrait la main, bonne chance. Depuis, j'écrivais ce livre-là, et il y avait la trahison en Irlande qui était découverte. Et depuis ce livre-là, je ne travaille plus que sur des blessures. La trahison irlandaise, la guerre que je n'avais pas évacuée avec le quatrième mur, mon père que j'avais contourné, le cancer, puisque quand j'ai écrit Une joie féroce, ma femme et moi avions un cancer en même temps. Donc, et maintenant, je sens que tout ça doit être refermé. Et mon épouvante, c'est ce que j'arrête, parce que voilà, parce que je ne me souhaite pas, j'ai pas un AVC, j'arrive, bonjour, hein, voilà, c'est encore moi, non, je ne peux pas. Ou bien, la fiction pure. Mais je sais pas si, je revendique le droit d'être mousquetaire du roi, pourquoi pas. Mais oui, mais alors, si vous promenez dans les librairies, si vous promenez dans les salons du livre, la première chose que les gens demandent, c'est ce que c'est autour. Biographique. C'est la première chose que les gens demandent. Et quand vous dites non, alors moi je dis oui, ça tombe très bien. Ah bon, c'est super. Mais à côté, quand il y a un pauvre qui est mousquetaire du roi, on lui dit, vous n'êtes pas mousquetaire du roi. Il dit, ben oui, mais c'est le roman. Ah, c'est inventé. Non, c'est un roman. C'est pas une question d'inventer ou pas. Et je trouve que le roman a perdu en crédibilité, en beauté, en droit. J'ai le... Et c'est le journaliste en moi qui se bat contre ça. Il faut que je me retrouve. Je suis obligé d'avoir une légitimité. Oui, j'ai écrit ce livre sur mon père parce que mon père était comme ça. Oui, j'ai écrit un livre sur le cancer parce que j'avais un cancer quand j'écrivais. Oui, sur l'Irlande parce que mon copain était un prêtre. Oui, sur le Liban parce que j'étais à Sabra et Shatila. Mais ça, c'est le journaliste qui se sent absolument obligé que tout ça parte de vrai. Parce que si j'écris le quatrième mur, que je ne suis pas allé à Sabra. Je suis incapable, si quelqu'un me dit « Mais est-ce que vous étiez à Sabra et Shatila ?» Je réponds, non, mais j'imagine que c'était comme ça et je ne peux pas vivre ça. D'autres le peuvent très bien, mais moi je ne peux pas. J'ai besoin de m'appuyer sur le vrai pour ensuite partir en fiction.
Une belle transition avec la question que je vais vous poser.
Et qui sera la dernière.
Et je ne l'ai pas fait exprès, la transition. Ça tombe bien.
Justement, entre les réalités, donc les réalités portées par la grande histoire, les réalités personnelles de votre histoire familiale, il est quand même écrit sur le livre que c'est un roman.
Oui.
Alors, c'est la un roman, il y a une part de fiction, mm-hmm. il y a la vérité, mm-hmm. puisque vous partez de la vérité. Mm-hmm. Mais d'après vous, est-ce que c'est tellement important que le lecteur sache ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas ? Est-ce que ce n'est pas plus important pour vous, écrivain, de donner à vos personnages une sorte d'universalité pour que le lecteur se retrouve dans vos personnages. Ce que je veux dire, c'est
pas vraiment... D'accord.
C'est l'histoire d'un fils et d'un père. Oui. Bon, ben, c'est l'histoire d'un fils et d'un père, oui. Comme on peut en trouver partout.
Oui.
C'est l'histoire d'un homme et de son ami qui est devenu, qui était un traître.
Oui.
Ça peut arriver tout le temps, justement. Donc, écrire une histoire avec laquelle le lecteur peut s'identifier, c'est donc un de vos objectifs.
Oui, mais que je le veuille ou non, la question que l'on me pose, c'est où êtes-vous, Chalandon, dans ce livre-là ? Et je n'y échappe pas. C'est-à-dire, c'est une fois, j'avais dit, c'est... En fait, je suis un yaourt avec des gros morceaux de Chalandon dedans. Enfin, avec des, c'est le yaourt aux fruits avec des gros morceaux de fruits. Ben là, des gros morceaux de... Et ça, c'est quelque chose... Oui, j'aimerais ça. J'aimerais qu'on ne me pose même pas la question. Mais je me retrouve en face et c'est... Je le prends même pas mal, parce que maintenant je suis habitué, mais j'ai l'impression que savoir ce qui est... C'est terrible ce mot, ce qui est vrai ou faux, ou ce qui est dehors de la fiction ou de la vérité vraie dans un roman, ça importe pour ouvrir le roman et pour savoir où on va. Moi, ça ne m'importe pas. C'est-à-dire que... je ne lis plus Germinal, ou bien je ne lis plus rien du tout. Mais aujourd'hui, je remarque que... On ne vous fait pas grâce d'être simplement romancier. Ce qui est important, c'est que vous soyez nu dans le roman et que je le sache.
Et oui, mais c'est vrai que moi, je sais que c'est souvent que dans une conversation comme ça sur un livre, on me pose la question.
Ouais.
Mais c'est vrai, c'est une histoire vraie. Mais peu importe que ce soit une histoire vraie.
Mais vous êtes la seule à penser comme ça, toute seule. Si.
Il y a Claudine qui pense avec moi.
C'est vrai. Non, mais, oui, mais c'est extrêmement difficile. Moi, je sais, j'étais avec un copain qui avait écrit un livre, ou un jeune enfant, donc c'est un livre, c'est quand même très simple. C'est un enfant de 8 ans qui s'aperçoit qu'il est homosexuel et qui se suicide parce qu'il ne le supporte pas.
C'est autobiographique.
Et là, vous êtes... Et le copain qui dit, ben non, parce que je suis là. Ah ben oui. Là, vous êtes au fond de tout. Est-ce que c'est autobiographique ? Je me moque, et c'est marrant, hein. Là, j'en souris parce que des fois, ça me fatigue. Mais je ne me moque pas des gens qui pensent ça parce que c'est important. Parce que quand on dit c'est autobiographique, ça peut aussi vouloir dire est-ce que votre père vous battait vraiment ? Parce que moi, peut dire le lecteur, moi, mon père, il me battait, et je veux savoir si vous avez connu l'impact des coups sur la peau ou pas. Parce que moi, oui, je l'ai connu. C'est peut-être ça. Aussi, est-ce que c'est autobiographique ? Moi, je sais que... donc, j'ai été extrêmement bègue, et quand j'ai écrit Le Petit Bonzi sur le bégaiement, je suis encore bègue, alors c'est bien, c'est pratique, je suis bègue quand je mens. Tu étais où ? D'accord, ok. Donc, quand je mens, quand je suis en colère, quand je suis extrêmement énervé, je bégaye. Mais j'ai eu des lecteurs bègues qui sont venus me voir et qui voulaient être sûrs que je sois bien bègue. Alors, on n'est pas... Je déteste ce mot de « woke ». Seuls les pègres ont le droit d'écrire sur les pègres, mais en tout cas, je me suis retrouvé dans cette position-là. Il a fallu que je prouve que j'étais pègre. Et c'est un drôle de truc, parce que, oui, mais alors, bon, et c'est pour ça que j'ai peur pour la suite, en fait. Parce que jusqu'à présent, ben, je suis venu vous voir, ou je suis venu voir des lecteurs, et il y en a, Amélie Nothomb, c'est génial, elle a le droit d'être le Christ en croix et d'avoir soif. Moi, je ne peux pas, on dirait, mais t'es pas le Christ. Et ils ont raison. C'est-à-dire que je crois que c'est trop tard. Je crois que je suis rentré dans une seringue où maintenant, c'est pas... Qu'est-ce que... Vous voyez, c'est pas possible. Je suis sérieux. Quoi. Je ne peux plus. C'est-à-dire que... Et j'en suis là. Aujourd'hui, j'en suis là à me demander, je fais comment ? Maintenant, je vais faire... Est-ce que j'ai le droit à la fiction pure ?
Vous prenez un pseudo ?
Oh, non, ça commence. Non, je vais attendre que l'autre il soit passé la dernière lettre de l'alphabet. Moi, là, je prendrai un pseudo. Juste un mot, ce que je voulais vous dire quand même, parce que j'aimerais que vous entendiez ça, je ne sais pas pourquoi, mais avant qu'on passe aux questions, dans le procès Barbie. Le procès Barbie aussi nous a parlé d'une France qui était magnifique. L'autre France, la nôtre. Et c'est magnifique, et j'ai envie de vous le dire, parce que c'est rien, c'est une minute du procès, mais pour moi, c'était C'était immense. Il y a une vieille dame juive qui donc était jeune à l'époque et qui vient avec ses deux cannes nous expliquer qu'elle avait des faux papiers qui étaient mal faits, qui étaient ignobles. Le tampon bavait, la signature, ça n'allait pas, le papier, ça n'allait pas. Le premier contrôle, elle ne passerait pas. Le contrôle, elle le savait. Et elle arrive place Bellecour à Lyon et il y avait un barrage. Donc l'armée allemande, Wehrmacht, SS et des gendarmes français, des gendarmes de l'État français, des gendarmes de Pétain. Et elle dit au président, vous savez, je suis allé vers les gendarmes, parce que c'est quand même des Français, puis je suis allé vers le plus jeune. Il était beau, puis c'est le plus jeune. Et je lui montre ma carte, et dit, monsieur le président, je tremblais, comme maintenant quand je vous le fais, pas là, je tremblais. Et il a regardé ma carte, donc vous imaginez la scène, hein. Il a regardé ma carte, il a regardé la carte, il a dit, bon, les films. Il me dit, voyez, monsieur le président, excusez-moi, je m'étais dit ma vie entière que ce procès, je viendrais, elle avait été déportée après, plus tard, mais ce aller-fil, je profite de ce procès pour dire à vous qui m'écoutez, messieurs les juges, messieurs, vous les témoins, que ma France à moi, c'est celle-là. Et je trouve ça. J'ai écrit sur Barbie, j'ai écrit sur les enfants d'Izieux, parce que je voulais aussi que tout ça ne reste pas juste dans un journal qui se jette chaque soir, mais que peut-être, à un moment donné, que ça soit ailleurs, sur un autre support, que ça soit chanté, que ça soit écrit, que ça soit... Mais voilà. Mais ce aller-fil, ce gendarme, personne ne connaît son nom, on ne sait pas comment il a terminé. Mais en tout cas, ce jour-là, ben, il y avait un résistant français, qu'on le veuille ou non, et je trouve ça magnifique. Et j'étais très fier de cette chanson.